La parabole du semeur, que l'on trouve en Matthieu 13 et aussi dans les autres évangiles, est une des plus belles et connues paraboles. Elle a une autre particularité remarquable, c'est que c'est l'une des deux seules paraboles de l'évangile qui soit expliquée par Jésus lui-même. Donc voilà, je n'ai peut-être pas besoin de l'expliquer moi-même, puisque Jésus a donné l'explication, ça devrait tout à fait suffire. Et je ne vois pas très bien ce que je pourrais dire de mieux que Jésus, après tout. Simplement, je dois vous confesser une chose, c'est que cette explication de Jésus ne me plaît pas du tout, et en fait, je ne suis pas d'accord avec. Bon, alors, ne criez pas au blasphème, la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. La plupart des exégètes aujourd'hui pensent que cette explication de la parabole que l'on trouve dans l'Évangile n'a jamais été dite par Jésus. Ce serait un ajout postérieur datant du début de l'Église pour certaines raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, mais certains pensent qu'elle n'a pas été prononcée par Jésus, donc on peut l'oublier. Bon, comme je suis moins critique que ces gens-là, je pense qu'elle a été dite par Jésus. Mais alors pourquoi est-ce que je ne la suis pas? Je vais essayer de vous le dire. D'abord, faisons abstraction de cette explication qui, à mon avis, réduit le sens du texte. En effet, dans l'explication, Jésus dit, en gros, ce qui est semé, c'est la parole. Et donc, ça réduit le sens. Bon, voilà, les grains, c'est la parole qui est semée. Et du coup, quand on me l'expliquait quand j'étais enfant, on me disait, le sens de cette parabole, c'est simple. C'est qu'il y a donc la parole qui est l'évangile. Vous devez bien écouter cette parole avec attention, la garder dans votre cœur, ne pas faire comme ces gens qui écoutent et qui l'oublient, qui se préoccupent d'autre chose, mais la garder dans votre cœur pour que vous puissiez donner de bons fruits. Et on m'expliquait étant enfant que ces bons fruits, c'était des bonnes actions, des bonnes œuvres. Donc il faut écouter la parole de l'Évangile, ne pas l'oublier, pour faire des bonnes œuvres. Mais ça ne va pas du tout. Ça, c'est en tout cas faux. Pourquoi? Parce que dans la parabole, les grains récoltés sont de même nature que les grains semés. Et donc on ne peut pas dire écouter la parole pour faire des bonnes œuvres. Une œuvre, c'est pas une parole, et une parole, c'est pas une œuvre. Et donc, au minimum, il faudrait dire aux enfants, ce que je ne dis pas, et surtout pas au petit Paul qui va être baptisé tout à l'heure, écoutez bien le catéchisme pour pouvoir le réciter après. Je dirais, la parabole n'a à peu près plus aucun intérêt, vous pourrez tout à fait l'admettre. Donc ça ne va pas. Et donc faisons abstraction de cette explication qui gâche tout. Et si on garde la parabole telle qu'elle, sans a priori, alors elle devient magnifique. Parce que, évidemment, que nous pensons que le semeur, c'est Dieu qui sème, et que la terre, c'est nous qui recevons. Et à ce moment-là, chacun va se dire, mais si moi je suis la terre, et que je reçois de Dieu, qu'est-ce que je reçois de Dieu? Voilà la bonne question. Et je vais dire, mais de Dieu, je reçois tant de merveilles, je reçois son amour, je reçois sa grâce, son pardon, sa présence. Et tout cela devient merveilleusement lumineux. Et de dire, mais tout ce que vous recevez de Dieu, d'amour, de pardon, de grâce, de bonté, de générosité et de paix, nourrissez-vous-en pour pouvoir redonner de l'amour, du pardon, de la générosité et de la paix. Et ça, c'est vraiment toute la logique de l'Évangile, de dire, comme l'exprime l'apôtre Jean dans son épître, pour nous, nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés en premier. Et donc, nous pouvons pardonner parce que nous savons que nous sommes pardonnés. Et nous pouvons être des êtres de grâce dans ce monde parce que nous savons que nous sommes sous la grâce. Et donc voilà cette idée de la grâce première, du don premier, de l'amour premier, de ce Dieu qui donne abondamment. Et nous sommes invités à recevoir tous ces dons de Dieu. Et la vie chrétienne n'est pas de recevoir ces dons de Dieu pour se gonfler comme une grenouille qui va exploser, mais être capable de rayonner. Donc nous recevons tous les dons de Dieu pour que nous puissions les redistribuer et les rayonner, en rayonner sur cette terre. C'est absolument extraordinaire cela. Et on pourrait même élargir d'ailleurs tout cela. Parce que j'ai parlé là de dons spirituels, d'amour, de pardon et de grâce. Mais on pourrait aussi dire que finalement, chaque fois qu'on lit cette parabole, chacun peut dire ce qu'il a reçu de la vie, du monde, de Dieu, de qui vous voulez. Quelles sont les grâces de ma vie aujourd'hui? Et c'est là où la parabole m'intéresse, parce que une parabole n'est pas une fable de La Fontaine visant à illustrer une morale. Une parabole, à la limite, n'a pas de contenu ni d'explication. C'est un texte dans lequel chacun entre et se laisse transformer par lui. C'est pour ça d'ailleurs que cette explication donnée par Jésus ne va pas, puisque même il y a tout ce passage compliqué entre la parabole et l'explication, où Jésus prend la peine de dire « Je parle exprès en parabole parce que on n'est pas sauvé en écoutant un message et en y croyant. Il ne s'agit pas d'adhérer à un contenu ou à un dogme, mais je parle pour poser des questions. Et l'important, c'est de se laisser transformer par un message qui nous transforme et nous convertit. Et donc une parabole n'a pas d'explication. Chacun rentre dedans avec ce qu'il est. C'est dans une parabole, il y a deux auteurs. Il y a le lecteur et le Christ ou Dieu. Et on entre là-dedans et on entre en dialogue, en débat, et on en sort différent. C'est ça. Et par conséquent, j'aime, mais par-dessus tout, cette parabole du semeur, parce que je peux la lire tous les jours. Et tous les jours, je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur aujourd'hui? Quelle est ma grâce? Quelle est ma chance? Et qu'est-ce que j'en fais? Et je pourrais même dire que chacun va la lire différemment, parce que chacun de vous, là, vous pouvez dire, aujourd'hui, quelle est la chance de votre vie? Quelle est votre grâce? Qu'est-ce que vous avez reçu que vous ne méritiez pas? Qu'est-ce qu'il y a de beau, de réjouissant dans votre existence? Et qu'est-ce que vous en faites? Et je pourrais lire la parabole du semeur toutes les heures, parce que toutes les heures, j'ai quelque chose d'autre dont je peux me réjouir. Et alors, quand on le lit comme ça, cette parabole devient merveilleuse pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'elle est, je dirais, déculpabilisante. Le grain est semé, et que doit faire la terre? Eh bien, la terre, elle prend le grain, elle le digère, elle le broie, le grain n'existe plus, mais elle s'en nourrit pour donner naissance à une plante. Et donc, la première chose que nous avons à faire par rapport aux grâces ou aux chances de notre vie, c'est de les accepter avec simplicité. Alors oui, c'est pas très calviniste, hein, mon histoire, parce que dans mon éducation protestante, les plaisirs, les joies, les chances, c'est toujours un peu coupable. Mais non, 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 non. Vous avez des chances et des grâces de votre vie. Votre premier devoir, je dirais, c'est d'en profiter et de dire merci Seigneur. Voilà. Et donc, réjouissons-nous de nos chances. C'est pas parce que d'autres ne les ont pas que vous n'avez pas le droit d'en profiter. Et ce n'est pas parce que vous les refuseriez que les autres en bénéficieraient. Donc vous avez une chance, eh bien écoutez, n'insultez pas le Créateur, n'insultez pas la vie, n'insultez personne et profitez-en. Et donc il faut se nourrir de ces chances, de ces grâces. Parce qu'un chrétien ne peut être ensuite un bon chrétien que s'il est lui-même nourri de chance, de joie, de grâce et de reconnaissance. Et donc, profitons de nos joies terrestres, même spirituelles et terrestres, et il faut que ça grandisse en nous comme une joie jaillissante, pouvant redistribuer sur le monde. Et donc nourrissez-vous-en. La seule chose, plutôt il y a plusieurs problèmes possibles par rapport à la vie. Le premier, c'est de refuser les grâces. C'est pas bien, c'est comme ça qu'est condamné, vous savez, dans la parabole des talents, celui à qui on avait donné un talent, et qui, au lieu de se dire « mais chic, je vais en faire quelque chose », l'enterre en disant « c'est pas à moi, je le rendrai à Dieu, je n'en veux pas ». Eh bien Dieu dit « écoute, si tu n'en veux pas, débrouille-toi tout seul ». Et donc non, il faut accepter le talent qui nous est donné, le prendre comme pour soi, et ensuite s'en nourrir pour que germe en nous un sentiment de joie, de reconnaissance, et que l'on soit capable de redistribuer ensuite toutes ces joies et toutes ces grâces pour d'autres. Parce que le deuxième problème, vous disais-je, ce serait de garder ces grâces pour soi et de ne rien en faire. C'est un petit idiot. Une graine, elle est plantée pour redonner. Voilà. Après, ce message nous dit encore autre chose. Vous disais-je, ce qui est remarquable, c'est aussi cette position de Dieu par rapport à l'humain est franchement un des plus beaux messages de l'Évangile. D'abord, vous disais-je, parce que c'est Dieu qui donne en premier. Enfin, c'est toute la logique de la théologie de la grâce. Il ne dit pas, vous êtes là, une terre, produisez du fruit, et si vous produisez du fruit, je vous donnerai en abondance des trésors. C'est Dieu qui donne d'abord. Donc, il n'y a pas de théologie des œuvres. Il n'y a même pas de jugement. Dieu donne d'abord. Évidemment, il espère que ça produise du bon fruit. Il le dit. Il espère. Mais regardez bien dans cette parabole. Il n'y a aucune condamnation, aucun jugement. Dieu ne revient pas en disant « Le terrain qui n'a rien donné, labourez-le, détruisez-le, brûlez-le. » Rien. Il n'a rien donné. C'est dommage, bête, c'est dommage. Mais il n'y a aucun jugement, aucune condamnation, aucune menace, rien du tout. C'est quand même, écoutez, après 2000 ans, ou peut-être pas 1500, mettons, je ne sais pas, 1000 ans de prédication chrétienne, terrorisant les gens, menaçant de l'enfer, du jugement et d'autres choses, mais quand même, une parabole comme ça, c'est franchement un trésor absolu. Et l'autre chose même, c'est cette générosité absolument incroyable de Dieu, qui va semer, mais partout. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. La grâce de Dieu, elle est donnée à tout le monde. Dieu n'est pas idiot, il pourrait très bien savoir que s'il sème sur les pierres, ça va servir à rien. Donc Dieu aurait été peut-être plus malin de se dire « je vais garder mes bonnes graines pour la bonne terre voilà, ». C'est ce que font tous les paysans aujourd'hui, on ne va pas semer sur le goudron, enfin, c'est idiot quoi. Et en fait Dieu ne retient jamais sa main et il donne d'une façon universelle. Il donne à chacun, il donne sa chance à chacun, il espère de chacun. Et Dieu ne fait aucune différence dans le don de sa grâce, de son amour et de son pardon à qui que ce soit, et même ceux qui a priori pourraient sembler les moins disposés à donner du bon fruit, ils donnent. Cette universalité de la grâce est quand même d'une radicalité absolument extraordinaire. Donc voilà déjà sur Dieu, et puis c'est pas tout. L'autre chose qui me touche beaucoup aussi, je vous l'ai dit au départ, les grains récoltés sont de même nature que les grains semés. Réfléchissons à ça. Il ne dit pas « Dieu sème des grains divins », donc l'amour divin, évidemment, c'est remarquable, etc. Et donc, nourrissez-vous de grains divins, d'amour divin, et vous redonnerez un petit amour humain, de la grâce à bas prix, comme si les grains récoltés étaient de moindre nature que les grains semés, comme si l'amour humain valait moins que l'amour divin, comme si notre pardon n'était qu'un sous-produit du pardon divin. Les grains semés sont de même nature que les grains récoltés. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été paysan, mais je pense que quand on plante du blé, le grain de blé récolté, c'est le même que celui qui est semé. De même nature. Et donc, vous voyez, la grandeur, la noblesse qui est donnée à l'homme, de dire, vous êtes capable, vous, de produire dans votre vie des choses aussi importantes que ce que donne Dieu. Et du coup, le pardon que nous savons donner est aussi important que le pardon de Dieu. Et l'amour que nous donnons est aussi important pour le monde que l'amour de Dieu. Et cette divinisation de l'homme est quelque chose de très étonnant, franchement, qui n'est pas réduit à rien, mais qui finalement, l'homme est aspiré jusqu'au niveau de Dieu, est capable lui-même de redonner des dons aussi grands que ceux qu'il a reçus de Dieu lui-même. Mais à ce moment-là, je peux me poser la question et de dire, mais à la limite, le grain qui a été semé, d'où il vient? Est-ce que c'est Dieu qui l'a sorti de son nuage? Ou est-ce que ce n'est pas un grain qui aurait été récolté ailleurs, dans un autre champ? Et là aussi, ça nous invite à être attentifs. Lorsque nous attendons des grâces de la part de Dieu, est-ce que par hasard, Dieu ne se sert-il pas souvent de nos proches ou de ceux que nous rencontrons pour être les dispensateurs de sa grâce? C'est-à-dire que je pense que bien souvent, Dieu nous donne à travers certains de ses serviteurs. Et que oui, il y a l'amour direct de Dieu, le pardon direct de Dieu, mais nous recevons aussi de la part de proches, ici ou là, de grands ou petits, plus vieux, plus jeunes, égaux, pas égaux, famille, conjoint, collègues, je ne sais pas, ou inconnus dans la rue, et que ces gens-là sont capables d'être ceux qui nous donnent par eux-mêmes ce que Dieu souhaitait nous donner. Et que donc, faisons attention de ne pas mépriser ce que les autres sont capables de nous donner, parce que peut-être que c'est par eux que Dieu est en train de nous donner ce qu'il voulait nous donner. Voilà. Et puis, ne méprisons pas non plus ce que nous pouvons nous donner aux autres, parce que peut-être que Dieu attend de nous que nous soyons là, capables de donner à un autre ce que lui voulait donner. Nous sommes le canal par lequel les choses peuvent se passer. Après, revenons-en à l'explication de l'Évangile. Tout cela me semble beau, alors pourquoi diable y a-t-il cette explication disant « le semeur, c'est la parole qu'il sème ». Il y a trois explications possibles. La première, c'est de dire cette explication est apocryphe, elle a été rajoutée deux siècles après. C'est ce que disent les spécialistes. Ça peut se défendre. À un moment où l'enjeu, c'était la transmission de l'Évangile. Et donc on dit aux gens, attention, vous avez reçu un Évangile, ne le modifiez pas et transmettez-le. Donc il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque, donc l'Évangile, il fallait le recevoir, l'écouter, l'apprendre, le réciter, l'écrire, le diffuser, mais sans le changer. Les grains récoltés doivent être strictement les mêmes que les grains semés. Donc oui, certains disent que l'explication a été rajoutée au début de l'Église, quand l'enjeu était la transmission de l'Évangile, donc de la parole. Bon, ça ne me plaît pas, parce que je suis un lecteur naïf, et l'idée de dire que les évangiles ont été trafiqués au IIe siècle ne me plaît pas. Donc j'ai une autre explication. J'en ai deux autres encore. La première, c'est ce que dit Jésus qu'il a dit, en introduction à l'explication, qui va dans le sens de ce que je vous expliquais tout à l'heure, que une parabole a un sens différent pour chacun, parce que chacun entre dans la parabole en disant « qu'est-ce que j'ai reçu ?» Et du coup, il dit « pour vous, là, ceux auxquels il parle, ses apôtres, ses disciples, pour vous, voilà ce que ça signifie, c'est la parole. » Mais oui, parce qu'eux, ils ont vécu 3 ans avec le Christ, il y avait un enjeu, ce qu'ils avaient de plus précieux, c'était d'avoir reçu cet enseignement. Donc il dit cet enseignement, écoutez, c'est quand même une chance, quoi. Et donc, gardez-le, transmettez-le. Donc, c'est peut-être un exemple d'une chose à transmettre qui était la plus précieuse pour les disciples à ce moment-là. Je participe aussi, j'ai eu la chance de recevoir cet évangile. J'ai donc aussi la responsabilité de la transmettre à mes enfants, à d'autres. Donc, oui, c'est une explication possible et locale. Autre explication, c'est quand il dit « le semeur, c'est la parole qu'il sème », la parole, on peut l'entendre au sens large. C'est le début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, cette parole était celle de Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que, en fait, Dieu est parole parce que c'est pas juste une leçon à apprendre, mais Dieu est une parole d'amour. Dieu, c'est une parole de pardon. Dieu, c'est une parole de grâce. Dieu, c'est une parole de guérison. Lève-toi, marche, va dans ta maison. C'est une parole de résurrection. Sors de ce tombeau, sors de cette tombe, sors de la mort, du deuil. Debout et va vers le monde. Et donc oui, c'est peut-être ça, une parole au sens large que nous recevons, qui est une parole de grâce, d'amour, de pardon et de vie. Et donc du coup, ça me ramène à ce que j'ai trouvé tout à l'heure, à condition de ne pas tomber dans un fondamentalisme qui n'aurait pas de sens. Cela dit, cette explication recèle un autre trésor et je suis finalement content de ne pas l'écarter trop vite. Parce qu'on croit qu'elle simplifie, en fait, elle complique tout. Alors je suis ravi, je vous ai dit l'intérêt d'une parabole, c'est que c'est compliqué, voilà, c'est son intérêt. Sinon, Jésus avait qu'à dire les choses simplement, on aurait gagné du temps. Mais non, c'est compliqué, questionnant, ça nous force à réfléchir. Et donc l'explication, elle est drôle. In coda venenum, Jésus, dans son explication, complique tout. Et alors que j'avais cru comprendre cette parabole, tout à coup, je ne comprends plus rien. Pourquoi ? Parce que dans l'explication, tout est mis à l'envers. Il me semblait évident que, dans cette parabole, Dieu était le semeur, que nous étions les terrains, et que les grains, c'était les paroles de grâce, admettons. Mais si on lit l'explication, c'est pas ça. Il n'y a pas écrit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui écoute et ta-ta-ta-ta. » L'explication dit « Celui qui est semé dans les endroits pierreux, c'est celui qui. » C'est tellement bizarre que les traducteurs, en général, ont modifié le texte en disant « Non, non, ça ne veut rien dire, celui qui est semé, ben, ça ne va pas, puisque nous sommes le terrain, on n'est pas celui qui est semé. » Et donc, ils ont modifié en disant « Celui qui reçoit la semence. » Les exégètes qui étudient l'Écriture disent « ça ne va pas, celui qui est semé dans les endroits pierreux, c'est pas possible ». Et donc ils s'en sortent, comme souvent les intellectuels, par un gros mot. Et ils disent « c'est une anacolute » ou « un anacolute », je ne sais pas, c'est un mot que j'utilise assez rarement, je dois avouer. « Anacolute », ça veut dire je ne sais pas quoi, mais ça veut dire qu'on dit une chose en disant le contraire. Bon. Mais moi, je ne crois pas que l'Évangile s'amuse à faire des anacolutes. Et je crois que quand l'Évangile dit une chose, il pèse chacun de ses mots. Et quand Jésus dit « celui qui est semé là ou là », c'est pour dire finalement, vous n'êtes pas simplement la terre, comme vous le pensiez. Vous êtes peut-être le grain lui-même qui est semé sur la terre, qui est le monde. Et donc ça veut dire que le croyant lui-même est invité pas simplement à recevoir et à donner, mais il est invité aussi à se considérer comme celui qui est semé dans le monde pour donner une semence de vie et une parole qui puisse germer et produire du vin, du bien. Donc le croyant est invité à se donner lui-même dans le monde et ce qui est tout à fait cohérent par rapport à l'Évangile. Parce que du coup, le grain qui est semé dans le monde, je vous l'ai dit, son avenir est quand même un peu compliqué, puisque le grain est quand même fondamentalement mangé par la terre. Il est détruit. Mais il donne des merveilles après coup. Ça, c'est ce que dit l'évangile de Jean. Si le grain ne meurt, il ne peut pas donner la vie. Et donc, nous ne sommes pas des chefs-d'œuvre à préserver des monuments historiques en disant « je dois me préserver, je dois surtout ne pas me fatiguer ». Non, nous sommes invités à nous jeter dans le monde et à être prêts même à mourir pour le monde. Mais c'est ce qu'a fait Jésus. Il s'est jeté dans le monde et il est mort pour le monde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. C'est ce qu'a fait le Christ. Donc je ne vous demande pas de mourir sur une croix, je ne le fais pas moi-même. Mais néanmoins, l'idée que nous sommes invités à nous donner dans le monde, à être semés dans le monde, au risque de notre confort, au risque de notre notre bien-être physique ou corporel, c'est une chose importante. Avec en plus, du coup, cet autre message, qui est que comme le grain est semé, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas simplement dans la bonne terre, mais il est semé partout. Et là, moi, ça me parle parce que j'ai fait hier un mariage et le prêtre avec qui je célébrais disait « On me demande plein de mariages, mais je vois des gens qui croient en rien, donc je refuse. » Est-ce que je ne dois m'intéresser qu'aux paroissiens dont je me dis « Mais lui, il va être formidable, ils vont être pratiquants et puis ils vont beaucoup donner à l'Église. » Nous devons donner sans attendre de retour, en espérant, mais sans condition d'efficacité. Ce n'est pas le problème de savoir si je donne à machin, est-ce qu'il en fera bon usage, est-ce que ça lui sera utile, est-ce que... Dieu donne, point, je donne, point. Je donne parce que la logique, c'est de donner et de se donner. Et Dieu ne retient pas sa main quand il donne, et nous sommes invités à donner sans nous poser la question de ce que l'on en retirera, ni pour soi, ni pour le monde. Il faut simplement donner. Il n'y a pas à trier entre qui est digne du temps qu'on leur consacre, qui est digne de ce que l'on donne et qui ne l'est pas. On donne, point. C'est une logique qui est simplement celle du don. Et ainsi, voilà toute cette parabole qui est, je vous ai dit, à mon avis, une des plus essentielles de tout l'Évangile et une des plus connues, tant mieux, mais qui nous explique tellement tout, je dirais, sur la logique de Dieu, la logique de la grâce, la logique de la responsabilité, sur cette relation entre Dieu et nous, entre nous et les autres, ce qui est attendu sur le jugement, la grâce, le don, la générosité, et sur cette capacité que nous pouvons avoir à la fois à recevoir et à transmettre, et même que nous pouvons, à la suite du Christ, de devenir des ferments d'un monde nouveau, dont le croyant qui adhère au message, à ce message créateur de l'Évangile, est le porteur pour féconder le monde. Amen.